Bien, merci. Donc, Laurent Lescoire, donc de Rouen. Dans notre groupe, on a eu une réflexion en fait décalée, puisque des collègues nous ont présenté le fonctionnement d'un internat en maison familiale et rurale. Ce qui, d'une certaine manière, a pu jouer un rôle de miroir, c'est-à-dire regarder une autre structure qui obéit à d'autres systèmes de contraintes, mais qui a son propre modèle pédagogique qui, sur certains points, peut se ressembler, et sur d'autres, est assez opposé. Donc, en fait, la réflexion que je vous propose, c'est quelques réflexions à partir de ça. Donc en fait, ces maisons familiales et rurales, telles que nous les avons perçues, s'inscrivent finalement dans un modèle pédagogique assez complet, intégré, qui s'inspire, on pourra le dire, de certaines approches des pédagogies coopératives et l'éducation nouvelle, allant jusqu'à envisager que les enfants participent à la vie collective et aux tâches de ménage. Et donc un modèle qui a comme plusieurs particularités, notamment le fait que la dissociation tant scolaire et tant d'internat est beaucoup moins évidente qu'on peut l'avoir dans d'autres modèles, sauf a priori, si j'ai bien compris, dans certains choix pédagogiques comme ceux de Montpellier où globalement la journée scolaire est pensée dans une continuité, mais on peut repérer dans beaucoup d'internats une forme de juxtaposition entre le temps scolaire et les autres temps. Et là, dans ce modèle maison familiale et rurale, on a un choix pédagogique qui est de lier ces différents temps avec, ça fait sourire une partie du groupe, des formateurs qui peuvent intervenir le soir, rester. Il semblait que ça pouvait poser quelques problèmes dans certains établissements d'envisager de demander ça à certains enseignants. Donc, à partir de ce modèle, en fait, on a interrogé plusieurs questions, qui est celle de la continuité des temps, les temps des adultes entre le temps scolaire et la vie de l'élève, mais aussi le temps de l'élève, avec l'idée que finalement, qu'il y a derrière, de toute façon, la question d'un projet éducatif, qui est peut-être pas complètement en phase avec le projet institutionnel, et que tout ça nous renvoie à des philosophies sous-jacentes. Des philosophies éducatives qui sont peut-être pas non plus toujours complètement explicites dans les dispositifs. Alors, il me semble que une première logique auquel sont confrontés aujourd'hui les dispositifs dans leur année 3, 4 pour certains, c'est la question de dépasser la logique d'hébergement. Ça, on en a parlé ce matin, mais peut-être aussi dépasser la simple logique d'accompagnement scolaire, pour aller vers ce qu'on appelle plutôt, là, dans le champ de l'éducation populaire, l'accompagnement à la scolarité, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui concourent à la réussite scolaire, mais aussi sociale, et ainsi de suite. Et dans cette logique-là, finalement, ce que nous renvoie cette maison familiale et rurale, c'est peut-être une réflexion sur ce que j'appellerais un environnement accompagnant. Beaucoup plus que simplement des moments qu'on intitulerait accompagnement, qui est un projet pédagogique intégré qui a réfléchi tous les espaces et tous les moments comme étant éducatifs et participant à la réussite. Donc, ensuite, on s'est interrogé un tout petit peu sur ce que voulait dire le mot accompagnement, qui fonctionne aujourd'hui comme un mot valise. C'est-à-dire, quand on s'amuse à essayer d'aller repérer le mot accompagnement dans tous les espaces de texte institutionnel, il est très présent, et à l'interroger au regard de ce qu'il voudrait signifier si on le prenait au sens littéral du terme. Donc aujourd'hui, en sciences de l'éducation, on utilise beaucoup les travaux de Maëlla Poll, qui a fait un gros travail sur les définitions de l'accompagnement, et qui nous rappelle que étymologiquement, l'accompagnement, ça nous renvoie à une relation de cheminement en partage. Et que l'accompagnement, ce serait plutôt être à côté d'eux que devant. Ce qui interroge finalement ce qu'on appelle accompagnement aujourd'hui dans les dispositifs, puisque la plupart des pratiques partiraient près plus de ce qu'on pourrait appeler un étayage, de conduire, de guider, d'escorter, voire plutôt que de partir du projet des élèves et de les aider à réaliser leur propre projet. Ce qui nous renvoie probablement à une question qui, à mon point de vue, est insoluble, c'est-à-dire entre des contraintes institutionnelles et une forme scolaire qui vise à finalement rendre conforme du point de vue social un certain nombre d'élèves, et une démarche qui, elle, pourrait accepter la subversion du propre chemin de ces élèves. Et je crois que toutes les équipes sont, d'une certaine manière, confrontées à ce type de questionnement renforcé par le système de contraintes. Et donc, je crois que dans le projet Internat d'Excellence se pose cette question de savoir si, finalement, notre objectif est de travailler sur la conformation à des normes sociales, à ce qu'on pourrait appeler le métier d'élève, plus globalement, ou alors si, finalement, c'est un dispositif qui vise le développement personnel, comme on peut le trouver dans certains projets. Et là, la maison familiale et rurale, de par son montage, nous renvoie en miroir à un fonctionnement qui est peut-être un peu structuré sur un autre modèle. L'autre élément dont nous avons discuté un peu, c'est la question de l'accompagnement et de ce que ça renverra en termes de posture pédagogique. Parce que s'il s'agit, finalement, de cheminer avec, ou ça suppose peut-être des techniques, ça suppose peut-être du coup des formations. Et le constat qu'on peut faire, c'est que globalement aujourd'hui, derrière le mot accompagnement, on nous renvoie plutôt à ce que j'appellerais une posture bienveillante à dominante empathique, qui relativement individualisée d'ailleurs, mais qui renvoie finalement à la nature de chacun et peu à des professionnalités construites qui seraient sur des outils comme l'entretien d'explicitation, mais aussi tout un tas de dispositifs. Et c'est probablement un des enjeux qui est renvoyé aux structures aujourd'hui dans ce domaine, c'est-à-dire accompagner, oui mais comment, d'une certaine manière, avec en plus une particularité des dispositifs internats d'excellence, c'est un turnover relativement... important des personnels qui sont en première ligne, qui dans beaucoup de dispositifs sont de statut de type AED ou intervenant extérieur, et ce qui renvoie à la question de la formation de ce type de personnes à l'accompagnement. Nous avons plaisanté sur la nécessaire peut-être formation également des enseignants, de certains enseignants, à une posture d'accompagnant, dans la mesure où l'identité professionnelle est peu structurée initialement sur ce type de pratique et plutôt sur une posture de type transmission. Et donc ça renvoie aussi au système. Une question, c'est qu'on veut faire de l'accompagnement, mais quels moyens, d'une certaine manière pédagogique, se donne-t-on pour que les adultes soient accompagnants? L'autre question qui nous a fait un peu sourire dans ce groupe, c'est que quand les collègues de la maison familiale et rurale nous ont expliqué un petit peu le système de contraintes, mais aussi les conditions d'exercice professionnel avec des formateurs qui, si j'ai bien compris, peuvent travailler parfois certaines semaines 42 heures, mais ils rattrapent à d'autres moments, hein, je vous rassure. Ça nous a obligé à nous poser la question finalement de ce que le système de contraintes même de l'éducation nationale dans les dispositifs type internat d'excellence fixe comme limite à l'idée même de développer certaines pratiques pédagogiques. C'est-à-dire, quand bien même on voudrait développer des approches, ce que j'appellerais un modèle plus intégré, effectivement, il est probable qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des structures, même si le dispositif est dérogatoire, les systèmes de contraintes et les identités professionnelles fonctionnent comme des freins à pas mal d'innovations. Et notamment cette question d'un modèle plus accompagnant qui supposerait que, finalement, il y ait des adultes qui puissent être garants d'être en contact avec un enfant et pas seulement avec un élève, et des adultes qui puissent voir la globalité de la personne, ce qui serait une base probable pour un travail sur l'accompagnement, ça résiste du point de vue simplement de l'organisation temporelle du temps des adultes en milieu scolaire. Donc pour terminer là-dessus et laisser place à la pause bien méritée que nous avons tous, non même pas de pause, oh là là, ça pourrait nous renvoyer aussi à une autre question qui est celle de, pour rebondir sur ce que disait Patrick, celle de l'autonomie, c'est-à-dire si l'autonomie c'est se gouverner soi-même, effectivement accompagner à l'autonomie, ça pose la question des modèles d'encadrement qu'on a derrière. Et nos prédispositions en termes d'identité professionnelle, puisque moi aussi j'étais enseignant avant d'être là, je crois nous incite plutôt à penser l'autonomie comme quelque chose qui va se construire par une imposition de règles externes. Et la réflexion à laquelle nous renvoient les maisons familiales et rurales, c'est plutôt un choix pédagogique de faire construire l'autonomie par la construction progressive de règles dans la construction, dans la maîtrise, dans la vie d'une collectivité. Et je crois que ça fait peut-être partie des pistes d'évolution et de réflexion qui peuvent interroger les dispositifs d'internat, puisqu'en fait le moment internat n'est plus seulement effectivement un lieu d'hébergement, c'est un moment éducatif comme les autres, mais qui s'appuie sur d'autres théories de l'éducation que celles du scolaire, qui sont plutôt celles issues de l'éducation populaire globalement, et notamment de toute la socialisation par la vie en collectivité. Je crois que là, peut-être qu'il y a quelques pistes à envisager. Les questions pour les résumer, je crois que cette question de l'accompagnement nous pose la question de la place des sujets. Et par exemple, dans la maison familiale et rurale, c'est intéressant de savoir que l'internat est pensé comme une maison, par exemple. La question de l'adhésion, de l'intériorité ou de l'extériorité des projets, c'est-à-dire est-ce qu'on est finalement dans des pédagogies contraintes de l'extérieur pour les enfants, ou est-ce qu'on va sur la question de la pédagogie des choix? Mais Jean Housset parle aussi de la pédagogie de la décision comme moyen de l'autonomie. Autrement dit, c'est très différent d'être confronté à un modèle qui est pensé en dehors de vous, dans lequel on vous demande de faire des choix, et d'être confronté à un modèle auquel vous participez et que vous contribuez à construire. Et là, peut-être que la vie en internat nous renvoie à ce type de questions pédagogiques. Autre élément, bah, c'est la place des formateurs, c'est-à-dire à savoir aujourd'hui comment pourrait se jouer cette évolution des professionnalités, mais j'en reparlerai peut-être un peu tout à l'heure. Et puis aussi les conditions d'exercice des métiers et la possibilité ou non aujourd'hui de basculer dans des modèles réellement alternatifs, mais peut-être qu'il faudra passer par l'intermédiaire pour y aller. C'est-à-dire ce que j'appellerais un basculement, c'est le fait que les professionnalités, enfin que les innovations ne constituent pas simplement à aménager la marge des formes scolaires, mais arrivent ou décident de travailler la forme scolaire et l'organisation du temps scolaire et des relations, de la relation éducative du champ scolaire dans une perspective qu'on dirait plus accompagnante. Il me semble que globalement, cette question de l'accompagnement ouvre plus de possibles de réflexion qu'elle soit complètement traitée en totalité aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie.